Et puis, nous avons d'abord étudié un midrash, avec d'autres midrashim à l'appui, mais un midrash de Rabbi Akiva, définissant l'expression Shir HaShirim, et le chant des chants. Alors, je le rappelle très brièvement, il ne s'agit pas seulement d'un superlatif, le meilleur des chants, le plus élevé des chants, le plus chant des chants. Il y a quelque chose de beaucoup plus précis, qui nous a entraîné d'ailleurs dans une digression qui n'a pas été à sa place, concernant l'importance de la réciprocité de l'amour, différente de ce que j'ai eu l'occasion de définir hier comme étant deux lignes parallèles d'amour, mais qui ne se rencontrent pas. Lorsqu'il y a la rencontre, alors il y a la loi du corps au contrat de réciprocité. Et on peut faire un schéma. Je vous avais cité une remarque de Mme Amado Valensi, que l'objet de l'amour dans les différentes mythologies, ou même dans les autres grandes traditions religieuses, c'est vrai aussi d'une certaine manière pour l'islam, c'est soit l'amour de l'homme vers Dieu, soit l'amour de Dieu vers l'homme, mais il n'y a pas
l'amour de Dieu
de rencontre. Certes, et parfois, pour une même conscience, il peut y avoir ces deux lignes parallèles. Il n'y a que, historiquement, dans le phénomène Israël, dans le fait Israël, qu'il y a eu cette rencontre, alors il y a eu révélation. Et c'est pourquoi toutes les grandes religions historiques, qu'on appelle dans le vocabulaire de l'histoire des religions, les religions positives, c'est-à-dire qui se basent sur une révélation qui aurait effectivement eu lieu historiquement, se rattachent à la révélation à Israël. Je pense que c'est suffisant comme rappel. Nous allons approfondir du point de vue du détail même du Midrash, des Midrashim qui sont la source de Rashi et plus tard du Gaon de Vilna se basant sur Rashi, dans ce principe-là. Merci. Alors attendez, on va vous distribuer la... C'est ça dont j'ai besoin d'avoir. C'est après. On va d'abord vous distribuer. Merci. La
suite... distribuer ça.
C'est ce que je viens de distribuer.
Allez, je vais vous expliquer. Ah ben, c'est trompé. Exactement. L'expérience religieuse générale, universelle, a été une recherche de Dieu venant de l'homme. Et toute expérience religieuse, que nous allons appeler, si vous voulez, païenne, de la religion naturelle, c'est une espèce de ligne inductive, induction opposée à déduction, qui va de l'homme, exigence, appel, recherche, nécessité, besoin, qu'il y ait un Dieu. Et en dehors du phénomène de la prophétie hébraïque de la Bible, partout ailleurs, il y a, si vous voulez, cette religion que j'appellerais psychomystique. C'est-à-dire sa part de tendance, de nécessité du psychisme humain vers l'idée de Dieu. Lorsque, en dehors d'Israël, un homme dit qu'il a la foi, ça veut dire qu'il croit en l'hypothèse de l'idée d'un Dieu qui donnerait un sens à sa destinée. Je suis obligé de schématiser, on n'a jamais le droit de faire cela pour un sujet aussi délicat. Enfin, vous pouvez explorer toute l'histoire des religions, à part des prétentions d'ordre mythique, des dieux, comme en parle par exemple la mythologie grecque, qui n'ont rien à voir avec l'idée du créateur de l'univers dont parle la révélation divine, les dieux. Aujourd'hui, dans la mystique fiction contemporaine, on vous parlera des extraterrestres. Okay, vous voyez à peu près le parallèle qui se fait en plus libre. Tout n'est pas faux dans cette histoire, mais ça n'a rien à voir avec ce dont parle la Bible, en parlant du Dieu créateur. Bon, je vais faire un peu avancer dans une parenthèse de cette période, peut-être dans les autres jours du séminaire, on aura le temps d'en parler. Et la formule du monothéisme biblique, c'est Hachem, celui qui a créé le monde et s'est révélé à l'humanité à travers la prophétie hébraïque, lui est ce que vous appelez, et aussi ce que vous appelez, vous les païens, les dieux. Hachem, ou Ha'elokim. Okay. Bon. Mais, et ça c'est un consensus lorsque l'historien est de bonne foi, que nulle part dans l'expérience religieuse de l'humanité, il n'y a jamais eu cet événement, ni le récit d'un événement, où le créateur du monde se serait révélé à la créature. On parle d'êtres divins, les dieux des païens, les divinités, par exemple, de l'Olympe, etc. Et ça ne veut pas dire que ces êtres-là n'aient pas existé, que ce ne soit pas historiquement vrai, mais rien à voir avec ce dont parle la révélation biblique lorsqu'elle parle de la révélation du créateur de l'univers. Est-ce que c'est suffisamment clair, non? Étant donné que depuis 2000 ans et plus, le message de la Bible.
Mais ils ont des prophètes aussi.
Attendez. Étant donné que depuis 2000 ans et plus, le message de la Bible a diffusé, il y a une confusion dans la culture contemporaine depuis des siècles entre l'idée de Dieu des philosophes déistes, l'idée de Dieu des religions païennes et le Dieu dont parle la Bible. Il y a une confusion parce que le mot est le même. Mais les historiens de bonne foi de l'histoire des religions savent qu'il n'y a eu de phénomène de révélation positive, concrète, réelle dans la réalité de l'histoire que dans la société d'Israël, dans la cohérence du discours biblique. On y croit, on n'y croit pas, mais c'est pas, si vous voulez, on y croit, on n'y croit pas parce qu'on a les connaissances et la mémoire qu'il faut pour savoir de quoi il s'agit ou pas, mais c'est un phénomène radicalement autre. Je schématise encore, mais c'est nécessaire de le faire. Il y a dans le vocabulaire des historiens des religions ce qu'on appelle les trois grandes religions bibliques. Le judaïsme, la chrétienté, l'islam. Ces trois religions seules sont appelées par les historiens des religions et exactement des religions positives, c'est-à-dire où il y a eu un événement positif dans le sens de ce terme employé par Auguste Comte, du positivisme, positif, réel, concret, d'une révélation de Dieu à la créature. Dans les autres expériences religieuses que nous appelons païennes de la religion naturelle, eh bien, il y a ces deux remarques que je voudrais faire. Il y a un aller de l'homme vers un Dieu qui ne parle pas, qui ne répond pas, vers l'idée de Dieu dont on a besoin pour nourrir par la foi la sécurité d'un sens à la destinée humaine, c'est bien clair. Et les juifs connaissent aussi ce phénomène, mais à l'échelle privée, à l'échelle de la vie individuelle. Et puis d'autre part, il y a le récit de révélation d'êtres divins, mais qui ne sont en rien dans tous ces mythes, qui ne sont en rien le Dieu dont parle la Bible, c'est-à-dire le créateur de l'univers. Est-ce que c'est bien clair? Bon, c'est clair jusque-là. Je nuance encore en ce qui concerne la chrétienté et l'islam. En réalité, il y a une seule religion biblique, c'est la tradition juive, et deux filiales ingrates qui sont l'islam d'un côté et la chrétienté de l'autre. C'est une légende de dire qu'il y a trois religions bibliques, il y en a une seule, et puis il y a deux hérésies. C'est un problème très rare. D'ingratitude, si vous voulez, l'islam d'un côté qui se réclame des prophètes hébreux à sa manière, de façon théologiquement plus authentique que la chrétienté d'ailleurs, et la chrétienté d'autre part qui se réclame aussi des prophètes d'Israël. Vous vous rappelez la préface du Kuzari de Judas Lévi. Lorsque le Kuzari demande, le roi des Khazars, demande aux chrétiens, mais donne-moi les preuves de ce en quoi tu crois, dit Assad, demande aux juifs. Enfin, c'est eux les héritiers des hébreux. Lorsqu'il demande aux musulmans, donne-moi les preuves de ce en quoi tu crois, dit Assad, demande aux juifs, pas c'est les héritiers des hébreux. Et alors, le roi des Khazars répond, ah, j'avais pas idée, moi, de demander aux juifs cette nation si misérable, si antisémitisme universel. Mais puisque toi, le chrétien, toi, le musulman, tu me dis que les preuves de vos croyances sont censées être historiquement, concrètement, positivement chez les juifs,